Bonsoir, chers internautes, pour ce direct live. Nous sommes trois jours en Rosh Hashanah. Je ne vais pas parler ce soir de la fête, de son importance au niveau de la tshuva, qu'il faut faire tshuva, qu'il faut s'approcher de Dieu, prier avec intention, etc. Je vais parler plus des halakhot, un peu des lois, des détails un peu qui peuvent être oubliés et sont quand même assez importants. On va passer en revue rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, depuis la veille jusqu'à la fête elle-même. La veille, on dit des slichot, on ne pourra pas dire des slichot mercredi matin, c'est donc la veille de Rosh Hashanah, mercredi soir, la fête rentre, parce qu'on ne peut pas dire durant toute cette journée de mercredi, on n'est pas de vidouille, on n'est pas de tachanoun, donc on fera des slichot quand il fera encore nuit, soit après minuit, encore à l'aube, avant l'aube. La coutume aussi est de faire un atarat nedarim, général, ça va être une annulation des vœux générale. Donc on assied 3 ou 10 personnes et le public dira un texte de quelques pages devant eux. A priori, il faut comprendre ce qu'on dit. Cette annulation des vœux n'est valable que pour annuler les vœux des rabbanan. C'est-à-dire si quelqu'un a dit « je fais le vœu de » ou « je jure que je vais faire ceci ou cela » ou même s'il part d'une mitzvah, il dit par exemple « demain je vais étudier cette page de Gemara, demain je vais aller voir mes parents, demain je vais au Kotel ou demain je vais en Israël », même s'il n'a pas dit le mot vœu ou juré, il n'a pas fait un serment, c'est un vœu, mais c'est un vœu de la Torah. Ce type de vœu ne peut pas être autorisé par la Torah Nedarim, par l'annulation des vœux qu'on fait la veille de Rosh Hashanah, qu'on fait aussi la veille de Kippour, aussi pour le Kol Nidre. Kol Nidre, c'est aussi une annulation de vœux. Toute cette annulation de vœux n'est pas valable pour un vœu de la Torah. Il est valable que pour un vœu des Rabbanan. Qu'est-ce qu'un vœu des Rabbanan? C'est si quelqu'un, 3 fois de suite, a fait une mitzvah qui n'est pas obligatoire. Il n'a pas dit qu'il faisait blinéder, alors ça devient obligatoire, ça devient un vœu des rabbanan. Ou même s'il a fait une fois en pensant qu'il continuerait à le faire et il n'a pas dit blinéder, alors ça devient un vœu des rabbanan. Ce type de vœux sont annulés par l'annulation de vœux qu'on fera la veille de Rosh Hashanah. Les femmes peuvent faire les femmes et les filles peuvent faire leur père ou mari délégué pour annuler leurs vœux, elles n'ont pas besoin d'être présentes, il faut simplement qu'elles disent au mari, soit mon délégué pour annuler mes vœux, et le mari ou le père dira, annuler mes vœux, celle de ma femme, de mes enfants, etc., comme c'est marqué d'ailleurs dans le sidour, dans la formulation de cette annulation des vœux. Il est bien, le mercredi, donc la veille de Rosh Hashanah, d'aller au cimetière, sur les tombes des tzadikim, ou s'il n'y a pas de tzadikim, sur les tombes de la famille, etc., demander aux morts de prier à Dieu. Il y a 2 façons de faire qui sont permises, une qui est interdite. Celle qui est interdite, c'est de demander aux morts, aide-moi, fasse que je sois signé dans le livre de la vie, fasse que j'envoie la réfoua, la guérison à ma mère, à ma fille, etc. Ça, c'est interdit. On ne doit rien demander aux morts. Il y a 2 façons de prier. Ou on prie à Dieu que par le mérite des défunts qu'il y a ici, Dieu écoute notre prière. Ou on peut aussi demander au défunt lui-même, prie s'il te plaît à Dieu. Lui demander à lui que de lui vienne la guérison, un bon gagne-pain, tout ça, en aucun cas. Mais demander à lui, prie à Dieu, que Dieu m'envoie la guérison, envoie le gagne-pain, ça c'est permis. On fera attention à la dernière prière de l'année, c'est celle de Mincha. Mercredi après-midi, avant que la fête rentre, c'est la dernière prière de l'année, et tout va d'après la signature. Donc, on finisse bien cette année-là. Faire attention de bien prier en public, avec beaucoup de kavana. Il y a une coutume d'Israël. Dans le livre des poskim, des décisionnaires, c'est écrit, c'est une coutume d'Israël. Actuellement, beaucoup moins de gens le font, mais néanmoins, celui qui peut, c'est très bien. Jeûner la veille de Rosh Hashanah. Le jeûne commencera à l'aube, finira pendant la fête. Et pour qu'un jeûne soit valable, il faut a priori, il faut qu'on le reçoive déjà la veille. Ça veut dire que mardi après-midi pendant Mincha, ou si on a raté pendant la prière de Mincha, durant tout l'après-midi, on peut le faire. On dit après une formulation de on soit sur soi de jeûner le lendemain. Dans cette formulation, il y a aussi une condition. On dit en cas où je voudrais arrêter de jeûner, ou je pourrais pas continuer, je dirais un verset. On dit un certain verset, mais non, c'est David Hachem le verset, ou un autre verset, peu importe. Ainsi, on peut, en cas où, on peut s'arrêter de jeûner en milieu. Donc, on prendra sur soi donc, le jeûne la veille. Comme je dis, c'est possible à Mincha. Il y a 2 endroits de Mincha où on peut dire cette formulation. Ou bien dans Shoma Tfila, ou dans Elokai Netzor. si on n'arrête pas la mincha, comme je dis, toute l'après-midi est bonne. Dès que la soirée tombe, le soir tombe, déjà c'est trop tard, on ne peut plus prendre sur soi. Néanmoins, même si on n'a pas pris, vu que c'est une coutume du peuple d'Israël, on peut aussi jeûner sans avoir pris sur soi le jeûne. A priori, c'est mieux de le prendre sur soi. Si on jeûne le lendemain, on ne pourra pas se lever et boire et manger auparavant. À moins qu'avant d'aller dormir, on pose la condition. On dise, avant d'aller dormir, on dira, je ne prends pas sur moi le jeûne dès maintenant, et je pose la condition que je pourrai boire et manger tant que je veux après mon sommeil, tant que c'est avant l'aube. D'après la mystique juive, il n'est pas bien de manger, même avec la condition qu'on a posée, il ne faut pas manger une fois qu'on a dormi, le matin. Mais par contre, on pourra boire. Donc, le mieux, donc, de poser la condition qu'on pourra boire après qu'on se réveille, si c'est encore à l'aube, mais vu qu'on se lève pour les sirotes, ceux qui se lèvent, donc c'est bien de poser cette condition qu'on pourra boire un petit coup comme ça avant de commencer le jeûne et tenir bien jusqu'à Rosh Hashanah.
Il est bien d'aller se couper les cheveux la veille de Rosh Hashanah, si possible avant le midi juif, donc durant la matinée. Et quand on va chez le coiffeur, il y a plusieurs pensées à avoir pour faire beaucoup de mitzvot. On peut faire une dizaine de mitzvot quand on va se coiffer, quand on va chez le coiffeur. D'abord, savoir avec Rosh Hashanah, on pensera que par le fait de se couper les cheveux de la tête, on enlève par cela les dinim, les forces de rigueur céleste qu'il y a sur nous. Les cheveux longs sont un signe de rigueur céleste. Les cheveux courts sont un signe qu'on a enlevé ses rigueurs. Si quelqu'un rêve la nuit qu'il a des cheveux longs, c'est pas bien. S'il rêve qu'on lui coupe les cheveux, c'est très bien. Quand les gens font tchouva, tous les cheveux qu'ils ont longs derrière, ils les mettent devant. Devant, les cheveux devant, c'est très bien. La barbe, c'est un signe de bonté divine. Les cheveux longs, c'est un signe de rigueur céleste. Donc c'est bien de passer tout ce qu'il y a derrière, devant, ça fait des rabbins et non des hippies. C'est très sympa. Donc, quand on va chez le coiffeur, on pensera à cela. On pensera aussi qu'on fait plusieurs mitzvot. Celle de conserver les péotes, la partie des cheveux qui est ici à la tempe, jusqu'un peu plus bas que le trou de l'oreille. L'interdiction de la Torah de couper les cheveux ici plus court qu'un demi-centimètre, 5 millimètres. Donc, par le fait que le coiffeur lui demande de ne pas nous couper trop court ici, on fait deux mitzvot de la Torah. Plus 5, de ne pas couper, de ne pas la raser à la barbe ou au rasoir électrique, la barbe, la raison de la barbe qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 5 parties là. Donc, on fait déjà 5 mitzvot et 7 avec celle des cheveux, avec la rigueur céleste quand on lève les cheveux, c'est déjà 8 mitzvot. C'est la mitzvot de payer le coiffeur le même jour qu'il nous a rendu son travail, le même jour nous a coiffé, on le paye, on fait le mitzvah par cela. Il y a le mitzvah lota, c'est négatif, de ne pas oublier de le payer le même jour. Donc on fait déjà 2 mitzvot par cela. Donc déjà 10 mitzvot, si on y pense, on les fait, si on n'y pense pas, on ne les fait pas. Donc essayer de se coiffer, donc d'aller chez le coiffeur la veille de Rosh Hashanah, c'est bien. Extrêmement conseillé, ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire tous les jours, de le faire chaque semaine, mais au moins la veille de Rosh Hashanah et la veille de Kippour, d'aller au mikvé, de tremper dans un mikvé. Écrit dans les livres que même les jeunes filles non mariées y aillent. Aujourd'hui, ce n'est pas la coutume ainsi. Mais néanmoins, les hommes, au moins qu'eux aillent au mikvé. S'il n'y a pas de mikvé, vraiment impossibilité de le faire. Dans une piscine, c'est bien aussi. Évidemment, pour une femme, ce n'est pas valable. Mais pour un homme, pour se purifier, c'est valable. S'il n'y a pas de piscine, il y a aussi une combine. Je n'aurai pas le temps de vous expliquer maintenant, c'est un peu compliqué. On se lave les mains par alternance et 10 fois sur chaque main ensuite. C'est 40 fois en tout sur les mains, en pensant certaines lettres du nom de Dieu, le nom Ab. Ceux qui sont intéressés par cela, donc on fait un mikvé en se lavant les mains. Si quelqu'un n'a pas de mikvé proche de chez lui, n'a pas de piscine, donc c'est encore un moyen qui n'est pas tout à fait équivalent au mikvé, mais quand même extrêmement bien de faire si on n'a pas de mikvé. Pour plus de détails sur le site leava.fr, regardez mikvé avec les mains, tapez là-bas dans le moteur de recherche, et là, j'explique exactement comment on fait. Les 40 fois, on se lave les mains, et chaque fois, on pense à une autre lettre du nom de Dieu, le nom Ab. Quand on ira au mikvé, on trempera 5 fois. En pensant, première fois, on pensera qu'on se purifie. Deuxième fois, on pensera qu'on enlève de soi toute l'impureté qu'on a amenée en se fâchant. Quelqu'un qui est en colère, il amène sur lui une grande impureté. Le mikvé aide à enlever cette impureté. La valeur numérique du mot kaas, colère en hébreu, est la même valeur numérique que le mot mikvé. Kaas avec le colère, 151, comme la valeur du mot mikvé. Ça, c'est la deuxième trempette. Troisième, on pensera qu'on va adoucir les forces de rigueur céleste. Le Rosh Hashanah, un jour de rigueur céleste. Quand on trempe dans le mikvé, on pensera qu'on adoucit cela. Quatrième trempette, on pensera enlever de nous les habits spirituels de Chol, des jours profanes. Et on pensera que s'achève cette année avec toutes ces malédictions. La cinquième trempette, on pensera recevoir sur soi la lumière de la sainteté du jour de Rosh Hashanah, on pensera que débute une nouvelle année avec toutes ces bénédictions. Le soir, après la prière, on fait un certain C'est-à-dire, c'est une coutume importante. Rosh Hashanah, c'est le début, la tête de l'année. Comme dans une tête, c'est comme la graine d'une plante. Elle a en elle, en potentiel, tout ce qu'il y aura dans la plante. Donc, chaque petit détail qu'il y a à Rosh Hashanah est extrêmement significatif pour toute l'année. C'est pour ça que la coutume est de manger certains aliments qui, dans leur nom, ont une certaine ressemblance avec des mots en hébreu et ont fait une certaine demande à Dieu qui a à voir avec la prononciation de ce mot. Alors, comment ça? Alors, il y a plusieurs coutumes. Il y a plusieurs aliments différents d'après les coutumes. Il y a plusieurs ordres différents, même pour ceux qui mangent les mêmes aliments. Je vous dis comment est la coutume ici en Israël chez les Sfaradim, comme écrit le Ben Ishraï, mais chacun fera comme il a l'habitude de faire. On prendra, d'abord, il faut savoir qu'il est bien de faire tout cela après avoir fait le tatadaim et mangé le pain. Il y a un problème de manger plus de kazaït, plus que la quantité même d'un doigt comme cela, avant de manger le pain. Donc, faire le tatadaim, on mangera du pain, et après on prendra un fruit. Alors, ou on prendra une date ou un autre fruit, on fera la bracha Borei Pri Haetz. Ensuite, on prendra une deuxième date, ou c'est la première fois on a pris notre fruit au début, on prend une date, et la date se dit en hébreu Tamar, et on fera une demande Itamu. Itamu, ça ressemble au mot Tamar, c'est la même racine, Itamu, que soient éliminés tous nos ennemis. Et on pensera aux ennemis d'en bas. Parce que les ennemis d'en bas, ben, ça ne manque pas d'ennemis. Hezbollah, Hamas, tous les ennemis dont Israël, le peuple d'Israël, est entouré, comme d'habitude. Ensuite, on prendra du loubia. Loubia, c'est une sorte de... Ce n'est pas tout à fait des haricots. C'est des haricots qui est un peu dans la région. On appelle cela fasulia, ou loubia, ou roubia. Ça a plusieurs noms. Et on fera une demande, celle qui est marquée dans les sidourim. Il y a deux noms, Loubia, Roubia. Loubia, que Dieu, le mot lève, que Dieu ait un sentiment cordial avec nous. Roubia, qu'il yirbou, qu'il y ait une multitude de mérites devant lui. Ensuite, on prendra du poireau, qu'on appelle en araméen karti. Karti signifie, ça vient de la racine karet. Karet signifie retranché. Que soit retranché en train de prière, tout cela est marqué dans le sidour, mais je vous dis ce qu'il faut penser. On pensera que soit éliminé toutes les forces négatives qui ont été créées par nos péchés, et particulièrement par la semence en vin, le poireau. On prendra selek, silka. Silka, c'est des blettes, des feuilles de blettes. Et on pensera que si istalku, que soit éliminé, que partent tous nos ennemis, on parlera là des ennemis qui sont dans le ciel, qui nous accusent dans le ciel. On prendra la citrouille. La citrouille se dit en hébreu, on a ramené plutôt kra, ou kra, il y a deux octographes avec aleph ou avec aïn. Et on demandera à Dieu deux demandes. Une kra, c'est lecture, que soit lu devant Dieu tous nos mérites. Et kra avec ein, kra, comme cela, que soit déchiré. Les croix signifient déchiré, que soit déchiré notre mauvaise sentence dans le ciel. Il est bien ce moment de penser un des noms de Dieu saints, qui sont les initiales du mot kabel, ridnat, amecha, sagvenu, taharenu, nora. C'est-à-dire kra, que soit déchiré le, je ne vais pas dire le nom de la nuit, sat, et puis en. D'accord? Avec un puits au milieu, ça va. Ensuite, on prendra de la grenade et on fera la demande connue que notre année soit remplie de mitzvot comme la grenade. Ensuite, on prendra une pomme. Certains ont l'habitude de la tremper dans le miel. Chez nous, nous faisons comme dit le Ben Ishraï, on la cuit dans du sucre. Chacun fera comme sa coutume et qu'on ait une année douce. Si on la trempe dans du miel, on dira douce comme du miel. Si on la trempe dans du sucre, alors on dira douce tout simplement. Ensuite, on prendra une tête, si possible une tête de mouton, si on peut en avoir, sinon une tête de n'importe quel animal, de poisson, de coq, etc. Et on demandera à Dieu qu'on soit à la tête et pas à la queue. Et si on mange une tête de mouton, on rajoutera aussi la demande que Dieu nous rappelle le bélier de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, après certains avis, a été ligoté et a failli se faire égorger, c'était pendant Rosh Hashanah. Donc on demande à Dieu qu'il nous rappelle ce mérite. Donc de même qu'on fera des demandes avec les fruits et tout cela et montre à quel point chaque détail est important, on fera extrêmement attention à des détails du même type. Par exemple, ne pas manger des choses qui sont aigres, pour qu'on n'ait pas une année aigre, pour que l'année soit douce. Est-ce qu'on peut manger des choses qui sont piquantes? Alors, le roi Yosef a écrit dans un livre dernièrement que non, mais les commentateurs ont dit que si on regarde les sources des écrits qu'il a amenés, en fait, il ne parle pas d'une chose piquante, il parle d'une chose qui est aigre. Donc, il semblerait qu'on peut manger des choses piquantes pour ceux qui aiment manger piquant à Rosh Hashanah. Il est bien, d'après un certain verset qu'on voit dans le prophète qui parle de Rosh Hashanah, de manger de la viande grasse et de manger des choses qui sont douces. Pas trop, parce que la journée est difficile, il ne faut pas qu'on soit trop incommodé par trop de viande grasse. Extrêmement important, je répète, extrêmement important de ne pas se mettre en colère du tout, même pas dans le cœur. Restez, c'est un jour de tension, c'est un jour de digne, on sait qu'on est jugé, on fait super attention à tout et à la fois il faut être super cool. Donc arriver à jouer, à être tendu à l'intérieur, mais à la fois aussi extrêmement calme pour ne pas se mettre en colère pour quoi que ce soit au monde, c'est un très mauvais signe d'être en colère le jour de Rosh Hashanah. On vient de la prière le mercredi soir et on s'installe sur sa place. Il est bien, il y en a certains qui ont la coutume, comme le Ben Ishraï, de lire certains versets plusieurs fois. On dira 12 fois le verset Venoir Matzachen Ben Hachem, 10 fois le verset Vaizra Yitzrak, 10 fois le verset Kimcha Mekochaim, 17 fois le verset Ozorwa Lassadek ou Leshav Simcha, et enfin 10 fois le verset Vatam Kolechai, etc. Tout comme cela est écrit dans les Sidurim, en tout cas dans certains Sidurim. Les deux soirs de Rosh Hashanah, on fait dans le Kiddush Abacha Shechiyano. Il est bien, mais pas obligatoire, mais juste bien, si possible, le deuxième soir, d'amener un fruit ou un légume qu'on n'a pas mangé encore cette saison, un légume saisonnier, un fruit saisonnier qu'on n'a pas encore mangé. Et quand on fera Shechiyano le deuxième soir, on pense à rendre quitte le fruit qu'il y a en face de nous sur la table. C'est bien, mais ce n'est pas obligatoire. Durant le repas de Rosh Hashanah, les deux soirs, il est bien de lire, ceux qui sont capables, de lire tout le traité Rosh Hashanah en Mishnayot, c'est quatre chapitres, et on pensera à chacun des chapitres qu'on lit, on pensera qu'il correspond à une des lettres du nom de Dieu, une des quatre lettres du nom de Dieu. Il est bien, d'après la Kabbalah, de ne pas avoir d'intimité conjugale avec sa femme durant les deux jours de Rosh Hashanah, à moins que ce soit la nuit où elle va au mikveh, dans ce cas-là, il a l'obligation d'être avec elle. Mais en tous les cas, on va dire, il y a un cas où oui, on peut aussi, si quelqu'un voit que son yetzer hara est trop fort et ne peut pas tenir, alors mieux vaut bien sûr une relation plutôt que sarchas et shalom, Dieu nous en préserve, de la semence en vain. Dans tous les cas où il y a eu intimité conjugale, il faut vraiment essayer d'aller au mikvé lendemain matin pour venir le jour du jugement propre de toute impureté. Cette année, le jour de Rosh Hashanah tombe jeudi, vendredi, donc ça veut dire que nous sommes collés au Shabbat, donc il y a absolument l'obligation de faire un Eruv Tavshilin le mercredi après-midi. Je ne vais pas vous donner maintenant toutes les lois qui concernent le Eruv Tavshilin, ceux qui sont intéressés qu'ils aillent sur le site lava.fr, là-bas j'en parle. En deux mots, on prend deux aliments, c'est possible du pain et un œuf, c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. En tout cas, il faut qu'il y ait un aliment cuit à part le pain. Et on dit, la formule qu'il y a dans les Sidurim, que grâce à ce Eruv, on puisse cuire et cuire au four, allumer les bougies, et s'il y a besoin d'égorger, de Yom Tov à Shabbat. Cela nous permettra le vendredi de cuisiner, s'il y a besoin de cuire au four, etc., d'allumer les bougies, du vendredi au Shabbat. Si on n'a pas fait les Eruv, on ne peut pas le faire, à moins que c'est la première fois de notre vie qu'on oublie de faire les Eruv. Dans ce cas-là, on peut compter sur le Rav de la ville, on va le voir, on lui dit, écoutez, je n'ai pas fait les Eruv, et lui, il pouvait compter sur mon Eruv. Le Rav de la ville, normalement, il a fait un Eruv pour toute la communauté. Mais ça marche une fois dans la vie. Si une deuxième fois, on a oublié, ce n'est pas valable, on ne pourra pas cuire, on pourra donner notre nourriture crue à quelqu'un qui a fait le Eruv, et lui pourra cuire et nous rendre après la nourriture. Mais nous-mêmes, on ne pourra pas le faire. On fait la bracha avant de faire le Eruv, donc on est le mercredi après-midi. Le Eruv ne se fait que le mercredi après-midi, par avant, il ne faut pas l'oublier. Et ceux qui ont déjà tous leurs aliments déjà cuits pour Shabbat, qui vont que le mettre sur la plate avant l'après-midi pour le chauffer, feront le Eruv, mais ne feront pas la bracha. Parce qu'en fait, la seule chose qu'ils vont faire vendredi après-midi, c'est allumer les bougies. Ils vont allumer les bougies vendredi après-midi pour Shabbat. Pour cela, pas besoin de faire une bracha sur le Eruv. On fera le Eruv, mais sans bracha. Je vous rappelle aussi d'avoir à votre portée toujours une bougie qui restera allumée durant les 48 heures de Rosh Hashanah, de laquelle on pourra allumer le gaz ou autre chose, ou du moins les bougies de la veille de Shabbat qu'on ne peut pas allumer. Une allumette, c'est interdit, on peut juste passer le feu pendant la fête. Il est bien recommandé de ne pas dormir durant toute la journée de Rosh Hashanah, les deux jours. C'est extrêmement dur, c'est une journée qui est longue, les prières sont longues, la prière la plus longue toute l'année, c'est le Moussaf de Rosh Hashanah, mais néanmoins, celui qui veut le juger bien, qu'il essaye de se lever avant l'aube et de prier ou d'étudier toute la journée à part le moment où il mange. Et là, c'est une grande garantie, grande aide, comme quoi nous serons inscrits dans le livre de la vie, Bezrat Hashem. C'est difficile, mais ça vaut la peine. Celui qui reste réveillé, mais qui tourne en rond, mieux vaut qu'il aille dormir. On parle d'être réveillé et d'étudier. Beaucoup essaient de finir le livre de Tehillim. Si quelqu'un sent qu'il s'endort à cause de cela, qu'il étudie quelque chose de plus passionnant. L'essentiel est en état d'étude et pas de dormir alors que nous sommes jugés. Quelqu'un qui voit qu'il ne tire pas le coup, il veut s'endormir, qu'il fasse tout pour essayer de s'endormir qu'après le midi juif. Quand on est jugé le matin, il est bien aussi, si possible, de prier prier au net, avec le lever de l'aube, car il est écrit qu'on est jugé les trois premières heures du jour. Or, comment pouvons-nous être dans notre lit en train de ronfler alors que nous sommes jugés? Mieux vaut être en état de supplication de prière à Dieu. On a beaucoup plus de chances de passer haut la main avec l'aide de Dieu. Comme j'ai dit, les deux jours de Rosh Hashanah sont des jours de din, des jours de rigueur céleste. C'est pour cela qu'on ne rappelle pas les péchés. On ne rappelle jamais les péchés durant toute cette fête. C'est un jour où on appelle la grandeur de Dieu, qui est notre roi, que nous voulons qu'il se dévoile, que vient l'époque messianique, que nous sommes ses serviteurs. Et c'est l'essentiel de la fête. Est-ce qu'on fait des demandes personnelles? Si possible, pas. Le Zohar dit que ceux qui demandent des demandes personnelles, c'est que donne-moi de la santé, donne-moi une bonne parnassa, ressemblent à des chiens. Comment est-ce qu'on dit donne-moi en araméen? Have, have. Alors le Zohar dit c'est comme des chiens qui disent have, have. Comme ils aboient, donne-moi à manger, donne-moi de l'argent, donne-moi de la parnassa. Donc c'est pas très bien de prier là-dessus. Néanmoins, il y a quand même quelques prières de ce type-là de Rosh Hashanah. L'essentiel est de comprendre que la grandeur de ce jour-là dépend de comment nous inscrivons dans le but de la création du monde. Or, le but de la création du monde, c'est que Dieu se dévoile. Donc, on doit demander cela à Dieu, que nous voulons qu'il se dévoile, que nous sommes serviteurs, que nous attendons son dévoilement, qu'il y ait un grand Kiddush Hashem, une grande sanctification du nom. Et c'est ça, dans ce sens-là, que nous sommes inscrits dans un meilleur jugement, qu'on s'inscrit dans ce que Dieu veut, dans le but de l'humanité. Le seul moment où on rappelle où les péchés ont fait un vidouille, c'est pendant qu'il y a le chauffard. Le chauffard, il a la capacité d'adoucir la rigueur céleste, comme est écrit dans la demande qu'on fait juste avant, que Dieu passe de son trône de rigueur sur son trône de miséricorde. Donc il y a beaucoup de miséricorde à ce moment-là. Et il y a des séries de sons dans le chauffard. La première série, ça s'appelle Tashrat. Tashrat, Tashrat, Tashrat. Après, il y a un silence. Après, Tashrat, 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 il y a un silence. Ensuite, Tarat, 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 il y a un silence. Les deux silences qu'il y a entre les deux séries, ce sont deux moments où on peut faire le vidouille. Alors, ou bien quelqu'un dira les propres péchés qu'il pense avoir péchés, ou bien il y a un vidouille qui a été institué par le Rachash, un des grands kabbalistes qui vivait il y a 250 ans environ, Rabbi Shlomo Sharabi, un des plus grands kabbalistes des 500 dernières années. Il y a donc dans les sidourim, d'habitude, il y a ces vidouim qu'il y a entre les trois séries, donc deux fois on dit ce vidouille. Est-ce qu'on le dit à voix basse ou est-ce qu'on le dit seulement en pensée? Grande discussion entre les posqués. Maravad Yosef, il dit qu'on ne peut pas le dire, on ne peut rien prononcer. Après qu'on ait entendu la bracha du chauffard, il faut écouter le chauffard et faire les prières, on ne peut rien dire d'autre. Donc on n'aura pas le droit de prononcer ses péchés, même pendant le chauffard. D'après les kabbalistes, le Ben Ishraï, le Rav Nissan Ben Shaul, disent qu'il n'y a aucun problème de dire ses vidouilles à voix basse. Donc chacun fera comme il veut. Faire attention de ne pas dire le vidouille pendant qu'il y a le chauffard. Dès qu'il s'arrête, on dit vite, et dès qu'on sent qu'il va recommencer, s'arrêter tout de suite pour bien écouter le chauffard et ne pas passer à côté de cette mitzvah extrêmement importante qui est la mitzvah de la Torah. Ce même Rachash que je viens de citer écrit que celui qui, avant le chauffard, a pris sur lui une chose en plus pour la nouvelle année, mais une chose qui va tenir vraiment très très bien, alors il peut être certain qu'à ce moment-là, déjà, il est inscrit dans le livre de la vie. Donc, essayez avant le chauffard de prendre sur vous une chose supplémentaire. Quand le chauffard sonne, à quoi on pense? On pense à combien on était à côté de notre service divin durant toute l'année, qu'on regrette tous les péchés qu'on a faits. On ne prononce rien du tout, mais en pensée, on peut penser à la grandeur de Dieu, à quel point nous étions à côté et comment on regrette nos péchés. C'est à peu près ça la pensée essentielle qu'il faut avoir durant le son du chauffard. On rajoute certains passages dans la prière durant les 10 jours de pénitence. Donc ça commence à Rosh Hashanah, ça finit à Kippour. Il y a des passages qui sont nécessaires. Si on les a oubliés, on doit recommencer la prière depuis le début. Le passage essentiel, c'est à la place de dire Ha'el HaKadosh, on dit Ha'mel HaKadosh. Celui qui s'est trompé, il a dit Ha'el HaKadosh, Ha'mel HaKadosh, il s'est repris tout de suite. Avant que passe le temps de dire sept syllabes, alors ça va. Sinon, il a recommencé depuis le début de la Amida. Et s'il a un doute, s'il a dit « Amel HaKadosh » ou « El HaKadosh », vu que l'habitude est de dire « El HaKadosh », donc on dit qu'il a fait son habitude normale, donc il n'a pas dit comme il faut, il reprend depuis le début de la Amida. Les jours qui ne sont pas les jours de fête, donc pas Rosh Hashanah et pas Kippour, les jours qu'il y a entre les deux, il reste 7 jours de pénitence. Dans l'Amida, on dira « Baruch Ata Hashem, HaMelech HaMishpat » et non « Melech Oev Tzedakah HaMishpat ». Qu'est-ce qui se passe si on a oublié ou on a un doute si on a dit comme il faut ou pas? Grande discussion entre les dictionnaires actuels. Il y en a qui disent que tant pis, si on a oublié, on continue. D'autres disent non, il faut refaire. Et on proposera une condition. Si d'après la vérité, je dois refaire, alors que ce soit maintenant la Amida que je refais, sinon que ce soit une Amida d'offrande. Ça, c'est la condition qu'on ait fini toute la prière. Et là, on s'est rappelé qu'on n'a pas dit, on a doute, on a dit comme il faut. Si avant qu'on ait dit le deuxième Yul Eratzon, on s'est rappelé qu'on n'a pas dit comme il faut, on a un doute, on reprend depuis cette bracha. Hashiva Shoftano Kevareshona. Depuis là, pas depuis le début de la Amida. Il y a encore 4 petits passages qu'on rajoute. Dans la première bracha de l'Amida, dans la deuxième, dans l'avant-dernière et la dernière. Ces passages, on oublie de les dire, tant pis, c'est pas grave. Si on a la même bracha, par exemple, la première bracha, il faut dire Zochen l'Chaim, Melech HaFetz B'Chaim. Je commence, je finis la bracha, je dis Baruch Ata, j'ai pas encore dit le mot Hachem, je peux recommencer et insérer le passage que j'ai oublié. Mais si j'ai dit Baruch Ata Hachem, c'est terminé, je devrais dire Magen Avraham et je pourrais pas reprendre les passages que j'ai ratés. Je pourrais les reprendre où? Ou dans Shomea Tfila, ou dans Elokai Netzor, je pourrais les citer, à part le deuxième passage, Michamocha, qui n'est pas une demande, qui est une louange à Dieu, ça on ne peut plus le rajouter dans la Amida, on l'a raté. Le Rabbeinu Arashash dit que lorsque on dit Zochenu Lechaim, rappelle-nous à la vie, on pensera amener sur nous la vie spirituelle. Quand on continue et on dit « Kotvenu b'sefer chaim », inscrivons dans le livre de la vie, là on pensera amener sur nous la lumière, pardon, la vie physique. « Zochenu l'chaim », rappelle-nous à la vie, vie spirituelle, « Kotvenu l'chaim b'sefer chaim », la vie physique. Le Rashi rajoute aussi que dans le passage qu'on dit à Rosh Hashanah, « Ayom arat olam », aujourd'hui le monde a été créé, « Ayom yamid mishpat », aujourd'hui Dieu jugera, « Kol yisro olam », tous les créatures humaines, Im kevanim, im kevadim, que ce soit comme des enfants, comme ses enfants ou comme ses serviteurs, à ce moment, il dit qu'on doit, tous nos os doivent trembler et se dire, Dieu, quand il va nous demander au jour du jugement, vous dites que maintenant vous êtes mes enfants ou mes serviteurs, si vous êtes mes enfants, où est l'honneur que vous devez faire, comme les enfants doivent honorer leurs parents? Et si vous êtes mes serviteurs, où est la crainte que vous devez avoir, comme un serviteur doit avoir la crainte de son maître? Donc on doit trembler à ce moment quand on dit Im kevanim, im kevadim. On va finir, Baruch HaShem, on a fini assez rapidement, je suis content. Les 10 jours de pénitence qui restent entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a Shabbat, après il y a 6 jours. Le vendredi, la veille de Rosh Hashanah, la veille de Kippour, le vendredi après, il y a la veille de Kippour, il y a le mitzvah de manger beaucoup, doublement de ce qu'on mange d'habitude. Et celui qui peut, le Rabbi Sonam Bachelot disait, qui de toutes ses forces essayer de jeûner durant les 5 jours restants, c'est-à-dire dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, essayer de jeûner, car chaque jour correspond, le dimanche correspond à tous les dimanches de l'année, le lundi correspond à tous les lundis de l'année, et quand on jeûne, on fait tchouva, alors on nous pardonne tous les péchés de l'année. Le Ben Ishraï dit qu'on devrait normalement jeûner non-stop, ça veut dire sans manger même et boire le soir, mais qu'il y a une grande mitzvah, il dit que le Ikar HaTikun, que l'essentiel de la réparation de ces jours-là, se fait par le fait de manger. Mais il dit, on doit aussi maintenant jeûner pour nos péchés, donc la journée on jeûne, le soir on mange, c'est pour ça qu'il est bien de faire Birkat Hamazon tous les soirs si possible, car le grand Tikkun des nourritures se fait avec Birkat Hamazon. En tout cas, je crois que j'ai fini. On passe maintenant à vos questions. Je vous souhaite déjà, d'ores et déjà, un Ktiva Hatima Tova. On rentre en 7e année. La Gemara dit que si Mashiach doit arriver, ce sera une année de guerre contre Israël. J'espère que la guerre n'aura pas lieu, mais si elle a lieu, c'est un bon signe quelque part, en espérant que Dieu nous protégera, qu'il n'y aura aucun blessé, aucun mort dans Israël, et que Mashiach viendra, Berachamim, Amen. J'écoute maintenant vos questions.
Alors la question de Freddy Carpenter.
Oui Freddy.
Comment faire tchouva, comment réparer quand on n'a pas fait ni Sichot, car il n'y a pas de Minyan à côté de chez moi, et quand on fait pas tout à fait Rosh Hashanah à 100%, mais seulement Yom Kippour?
Il faut savoir que ce n'est pas les Sichot qui réparent. Rosh Hashanah, il faut essayer de le faire, mais ce n'est pas Rosh Hashanah en soi qui répare. Ce qui répare, c'est la Tshuva. La Tshuva, elle est très simple. On dit à Dieu, j'ai péché, j'ai fait ça et ça et ça. Citez ce qu'on a fait. regretter, vraiment regretter et prendre sur soi de changer. Si on a fait ça, on a fait l'essentiel de la mitzvah de ces jours-là. Freddy, Bérat Hachem, que Dieu t'aide à faire choix, et nous aussi, Bérat Hachem, et vous tous. Oui, prochaine question.
Une question de Yuvi.
Yuvi.
Kvod Arav, c'est impossible de faire le vidouille quand on fait les sikhot ou à Rosh Hashanah ou n'importe quand pendant la prière. Ça dure trop rapide, comment faire?
C'est trop rapide. Alors, la solution est de se mettre en situation de regret très grand et dire à la vitesse du tibour si possible. Maintenant, ce vidouille est rapide. On peut faire un vidouille sans être dans les slichot. On peut aller devant dans son coin et dire à lui, voilà, Dieu, j'ai péché, j'ai fait ça. Et ça, c'est le grand vidouille qu'on doit faire. À Yom Kippour, donc je rappelle, à Yom Kippour, on ne fait pas de vidouille, si ce n'est entre les séries de sons de chauffard. Mais normalement, à part cela, on ne rappelle jamais les péchés de Rosh Hashanah. Par contre, les 7 jours de pénitence qui restent, absolument, on le fait. Et le grand jour de Tshuva, c'est Yom Kippour. Et là, dans Shachri de Yom Kippour, il y a le grand vidouille de Rav Nissim Gaon qui fait 10 km. Il va d'après l'alphabet. Pour chaque lettre, ici, toutes sortes de péchés qu'on a pu faire. Donc, tous les péchés qui commencent par Aleph, tous ceux qui sont bêtes. Si on le fait lentement, ça prend une heure. Là, normalement, on a rappelé tout ce qui est possible et imaginable. Dernièrement, ici en Israël, des gens publient des petits carnets avec encore d'autres péchés possibles et imaginables. Et toi, tu fais une liste, chacun fait sa petite liste et fera son vidouille personnel. D'accord ? On peut rajouter aussi, nous, dans la prière de Shachrit, nos péchés à nous personnels. Là, on a tout le temps de faire, peu importe ce qui se passe à côté, on va à notre rythme, on fait le grand vidouille. Donc, je répète à ta question, quand tu fais le vidouille en public, dans les Slichot, ou dans la Amida, après la Amida, on fait le vidouille, on va à la vitesse publique pour ne pas rater Yagminot, les 13 attributs de miséricorde sont très importants, Hachem Hachem, quel Rahom Vechanou, ça c'est important. Donc on va à la vitesse de tout le monde, et tant pis, on va trop vite, tant pis pour la Kavana, l'intention. Mais ça ne nous empêche pas de faire un vidouille personnel aussi, nous, quand on veut à n'importe quel moment. Ce n'est pas besoin de le faire dans le cadre du public, etc. On le fait quand on veut. Et à Yom Kippour, on le fait sans cesse. Oui, prochaine question.
Une question de David.
Oui, David.
Raph, si j'ai école le deuxième jour de Rosh Hashanah, puis-je m'y rendre à pied sans écrire?
Extrêmement déconseillé. Extrêmement déconseillé. C'est le jour du jugement. Qu'est-ce que tu vas à l'école? Il est écrit que mieux vaut perdre toute sa fortune plutôt que de transgresser un interdit des Rabbanan. Am Israël se repente, on va à la synagogue, Dieu se dévoile, puis tu auras la guerre ici en Israël, quelqu'un va à l'école. Tu vas pas à l'école, terminé. Qu'est-ce qui est plus important, Dieu ou l'école? À mon humble avis. Maintenant, est-ce que c'est interdit vraiment? On n'a pas le droit de parler des paroles de chol, profane, ce jour-là. J'ai dit qu'on ne doit pas dormir normalement parce qu'on doit étudier ou prier ou étudier. C'est très dur pour moi d'autoriser une chose pareille. Je m'excuse, j'arrive pas à autoriser. Va à la synagogue et tu verras comment tu auras une meilleure année, c'est clair.
Une question de Jacques.
Oui, Jacques.
Est-ce bien d'aller au mikvé le matin de Rosh Hashanah? Si oui, comment faire? On peut se laver, se doucher?
Oui, tout normal. On va au mikvé la veille de Rosh Hashanah. Alors, on va la veille, on va le matin aussi. Très bien. Donc, pas l'eau chaude, il n'y aura pas d'eau chaude, on va dans l'eau froide ou l'eau tiède, pas plus de 37 degrés. Si elle a été chauffée avant la fête, elle est encore chaude, même très chaude, on peut. L'eau, contrairement à Shabbat, Yom Tov, une eau chaude qui a été chauffée avant Yom Tov, on peut se tremper entièrement dedans. Ensuite, on s'essuie, on fait attention de ne pas essorer la barbe ou les cheveux juste avec la serviette comme ça posée un peu. Et aucun problème, on vient comme ça, pur et simple, pour ce grand jour de jugement. Très conseillé.
Une question de Ayoun. Bonjour Rav, j'ai pris cette année la résolution de ne plus me mettre en colère. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner des noms de livres ou des conseils pour accomplir ce...
C'est une très bonne résolution. J'espère que tu tiendras. Je ne pense pas que tu tiendras parce que c'est extrêmement difficile, mais c'est en tout cas bien d'essayer. Il y a 2 livres en français qui sont conseillés à ce sujet, à ce propos. Un livre traduit de l'hébreu « Ôte ou chasse la colère de ton cœur » de Avraham Tobolsky et un autre livre « Contre la colère » du Rav Avraham Sitbon qui a été édité aux éditions Torah Box, dont je ne me souviens plus le nom, mais tu peux vérifier chez eux. Et on lit tous les jours un peu, c'est la meilleure chouva sur ce sujet, le meilleur moyen de tenir, lire de Moussard sur le sujet qu'on veut travailler. Et que Dieu t'aide à tenir bien. Et à nous aussi, Bédat Hachem.
Bonjour Rav, une question de Eli.
Oui Eli.
Peut-on faire la mitzvah de tachlir dans un seau que l'on jette dans les toilettes au lieu d'aller à côté d'une source où il y a des recoupements hommes?
Oui, oui, sans problème. C'est bien mieux de faire dans un seau plutôt que dans un endroit où il y a des recoupements hommes et femmes. Aucun problème. Nous, dans la grande synagogue où on est, on prend un seau, point barre. Voilà. Enfin, les plus grands tzaddikim de Yerushalayim sont là-bas et on fait dans le seau. Chas v'shalom d'aller à un endroit où il y a recoupements de hommes et de femmes. C'est quoi? C'est pourri, mais c'est quoi? C'est un jour de jugement. C'est pas le moment d'aller se mélanger aux femmes.
Une question de Moshe. Si je suis très fatigué la journée, puis-je aller dormir?
Après le midi juif. Oui. Si vraiment tu ne tiens pas.
Une question de Pierre Ledoux.
Pierre Ledoux.
Pensez-vous que ce Rosh Hashanah signifiera l'arrivée de Mashiach, vu que beaucoup de signes montrent que l'on est proche?
On ne sait pas quand Mashiach viendra, on espère que oui. Mais il est écrit dans le traité de Megillah, page 17b, ainsi que Sanhedrin 97b, ou A, je ne sais plus, que la sixième année dans laquelle nous sommes, il y aura des bruits comme quoi Mashiach vient bientôt. On a eu beaucoup de bruits de ce type-là, enfin beaucoup de colonnes de voix qui ont annoncé cela. Un autre sens dit que ce sont des bruits, des voix de chauffards. Dernièrement, on nous dit qu'il y a des bruits de chauffards dans le monde entier. Il paraît que sur WhatsApp, tout le monde en parle dans le monde entier. J'ai un élève ici qui a entendu à 5h du matin, lui et sa femme, à son chauffard. J'ai dit, c'est normal, à 5h du matin, on fait les slichot, c'est normal, il y a des chauffards. Non, il m'a dit, c'était un bruit continu, 5 minutes non-stop. Parfait comme ça pendant 5 minutes. Et quelqu'un m'a écrit de Paris, qu'elle a entendu le chauffard dans son bureau aussi, très bizarre. Peut-être ça correspond, si c'est réel, ça correspond à ce qui est écrit dans la Gemara, que la sixième année, il y aura ce type de bruit. Septième année, il y a la guerre contre Israël. Il semblerait qu'il y a une guerre qui se prépare, surtout avec Hezbollah. On est certain de rien, mais il semblerait. Et c'est marqué qu'en sortant de septième année, Mashiach vient. Mais il peut venir avant. On espère que c'est le bon coup, en tout cas. Oui, prochaine question.
Emmanuel Citruc.
Oui, Emmanuel.
Bonsoir, Rav. Quelles sont les règles de Tachir?
Tachir, c'est très simple. On prend un seau d'eau, on va devant un courant d'eau, peu importe, et on lit. L'essentiel, c'est de lire trois fois un verset du prophète Micha, Mi el kamocha, non se avon, vover peshe, le charne chalvo, l'artisago, etc. C'est un verset. Et c'est tout. Ce sont les 13, ça correspond aux 13 attributs. Ces versets-là correspondent aux 13 attributs de miséricorde de Dieu. Hachem, Hachem, Kel Arachum Mechanon. Et dans les Sidour, ils mettent une correspondance. Mi El Kamocha correspond à Hachem, etc. Donc les deux versets ont une correspondance entre eux. Et à un moment, on dit Tachir Bimsulotam Kuchatotam, tu jetteras dans les profondeurs de la mer tous leurs péchés. Alors on secoue un peu le bas de nos costumes pour montrer comme si on secoue nos péchés qui tombent dans, faut penser qu'ils tombent dans la mer du serpent là-haut, comme ce matin on a essayé d'ouvrir. Bon, c'est pas très important de penser tout cela, l'essentiel c'est de dire ces trois versets comme il se faut bien. Avant et après, il y a des longues prières qu'ont écrit le Rav Frida notamment. L'essentiel c'est de dire ces trois versets-là, on le fera le jeudi après-midi. Si on a raté, on peut le faire aussi vendredi après-midi, mais on le fait le jeudi après-midi, avant Mincha. Après Mincha. Oui.
Bonsoir Rav de Fradji, bonsoir Rav Shaya, je n'ai pas réussi à comprendre la phrase Gilouye Bilada, se réjouir dans le tremblement.
Gilou Birada. Très bien, c'est très juste.
Gilou Birada. Se réjouir pendant Rosh Hashanah alors qu'on est jugé.
Il est écrit qu'on met des habits de fête. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu que Dieu va nous juger favorablement. Les commentateurs disent, mais on voit qu'il y a des gens qui sont jugés et finissent pas l'année, Chassé Shalom. Alors, le favorable, il est pour la collectivité du peuple d'Israël. C'est ce qui nous intéresse. Si on doit mourir, Chassé Shalom, on doit mourir. L'essentiel, c'est que le dessein de Dieu se réalise, qu'il y ait Kiddush Hashem dans le monde et que l'âme Israël puisse réaliser sa mission sur terre. Et nous sommes certains que le peuple d'Israël sera inscrit dans le livre de la vie en tant que peuple d'Israël. Nous, alors, on doit prier et faire tchouva. Dans la mesure où une personne s'inscrit dans la collectivité d'Israël, elle aide au public, elle montre un bon exemple, elle aide son prochain, elle prie pour son prochain, elle s'inscrit dans le but de Dieu qui est le peuple d'Israël dans sa collectivité, et dans ce cas-là, dans cette mesure-là, il a beaucoup plus droit à être inscrit dans le livre de la vie. Donc quelque part, on est confiant en Dieu, on tremble à côté, c'est comme un roi qu'on aime qui se dévoile. Alors on l'aime, on est content de le voir, mais d'à côté, on est plein, on est transi de crainte, car c'est un roi. Pas comme les rois aujourd'hui qui sont des poltrons, d'accord? Un roi, roi, comme il y avait à l'époque, qui inspire la crainte. Les deux à la fois, et c'est possible. Comme un père. À la fois, on l'aime, et à la fois, on le craint. Mais c'est un père beaucoup plus grand, Hachem, qu'il soit béni.
Question de Raphaël.
Oui, Raphaël.
Bonsoir, Rav. Il est très difficile de me lever au slichot, voire impossible. Comment puis-je faire pour avoir un bon din le jour de Rosh Hashanah?
Le din ne dépend pas des slichot, c'est bien les slichot, mais le din dépend de la tshuva. Donc tu fais un bilan, tu as encore 3 jours pour le faire, des péchés que tu as cette année, tu vois qu'est-ce que tu vas changer, comment tu vas changer, quelle stratégie tu vas faire pour ne pas retomber, tu prends sur toi l'étude du Moussar Bélender tous les jours, et comme ça tu passes haut la main, Bezrat Hashem. C'est ça l'essentiel. Les slichot, c'est un moyen de faire tchouva. Mais ils sont censés faire tchouva. Beaucoup de gens au slichot sont moitié endormis. Ils disent tout ce qu'ils disent en chantant et ils n'ont pas fait tchouva. Les gens, ils font tout kippour en lisant tout ce qu'il faut. Ils n'ont pas fait tchouva. L'essentiel, c'est la tchouva. C'est prendre sur soi, de changer et regretter notre passé. C'est ça l'essentiel que Dieu nous, que Dieu nous demande durant ces jours-ci. Et ce que tu peux faire, c'est au moins faire les slichot en raccourci après durant la journée, en ne disant pas les 13 attributs de miséricorde de Dieu, Hachem, Hachem, ni tous les passages en araméen. Tu lis tout le reste. Ça, si t'as, si vraiment tu n'arrives pas à te lever, tu as raté, alors au moins tu fais cela.
Une question de Yona.
Oui, Yona.
Bonjour Rav, est-ce que l'on peut prendre sur nous des solutions que l'on n'avait pas vraiment tenues l'an dernier?
Oui, absolument. Les commentateurs disent c'est comme un trou où on creuse, quelqu'un creuse un trou dans la terre. Bon, il a un trou. Durant l'année, qu'est-ce qui se passe? Tout, il y a de la pluie, il y a du vent, et toute la terre qu'on a enlevée est retombée dans le trou. Alors on commence la deuxième année. La deuxième année, déjà, c'est plus facile de creuser. Et la troisième, encore plus. Donc, si on n'a pas réussi à tenir l'année passée, on refait tu vois là-dessus, et bien, sachez, on tiendra bien. Et on mettra en place des stratégies qui nous permettront de mieux tenir.
Une question de Yuvi.
Oui, Yuvi.
Dans un seau? Je pensais qu'il fallait aller dans un endroit où il y a des poissons.
Non, c'est une légende. Contez légende, mythologie juive. Pas besoin qu'il y ait des poissons. Ça va dans un seau aussi.
Une question de Shmuel.
Oui, Shmuel.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire un très bref rappel de l'ordre des choses particulières pour Rosh Hashanah?
Oui, j'ai fait un cours entier maintenant sur ce sujet. Si tu veux, il sera retransmis sur lava.fr très bientôt.
Une question de John.
Oui, question de John.
Rav, comment faire une tshuva quand on souffre d'addiction à quelque chose d'interdit?
Comment sortir d'une addiction? Il faut s'occuper d'addiction. Il faut commencer au moins à diminuer. Être suivi. Il y a des addictions à l'alcool, il y a des addictions à la pornographie, et il y a l'addiction à la drogue. C'est une de ces trois choses-là. Il y a des groupements juifs orthodoxes aussi qui s'occupent d'aider les gens à sortir de ce type d'addiction. Et sinon, faire tshuva, et regretter beaucoup, et prendre sur soi d'échanger, lire beaucoup de moussard, et commencer au moins à diminuer. Et beaucoup prier à Dieu dans ce sens-là. Ok, on va s'arrêter ici. Je vous souhaite à tous que Tiva Khatima Tova, que nous inscrive tous et nous signe tous dans le livre de la vie, une vie de miséricorde, une vie de Torah, une vie de proximité de Dieu, que Dieu se dévoile avec miséricorde sur son peuple, et qu'il amène la Géoula, Bémara Bémano, Amen. Merci beaucoup et à très bientôt.